Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. On appelle au dialogue de sourds et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Eh bien, nous sommes donc passés à contre-histoire. Et je vais en profiter pour vous raconter le terrain de jeu de Léopold. Léopold de Belgique. Les Français s'emmerdaient. Les Anglais s'emmerdaient. Les Belges, les Allemands, les Portugais et bien d'autres gouvernements d'Europe s'emmerdaient, fermes. Et puisque le divertissement, à ce qu'on dit, est une nécessité humaine, et qu'on avait développé une addiction de plus en plus féroce à ce besoin de se divertir, on organisa, pour le divertissement de toute l'Europe, la plus grande chasse au trésor de tous les temps. Deux ou trois siècles avant, l'Europe s'était déjà jetée sur le monde une première fois. Et dans la grâce de ce premier appétit, le vieux continent s'était donné plusieurs empires outre-mer. Et puis le temps était passé. L'Europe s'était de nouveau éveillée, reprenant soudain goût à la conquête. Les yeux s'étaient tournés cette fois-ci aux quatre coins de l'horizon. Car à présent, on connaissait plus précisément les limites du monde. Et c'était à l'intérieur de ces limites qu'on se taillerait une part. Terminées les explorations hasardeuses, les voyages en caravelle, les longues expéditions vers des terres inconnues, désormais le télégraphe et la vapeur allaient être les instruments du succès. C'est eux qui, tels des demi-dieux, parcourraient le monde, non plus à la recherche des épices ou de l'or, mais afin que s'accomplisse la promesse, l'ultime transmutation des hommes et de la terre, en cette matière ductile et infiniment exploitable que nous connaissons. Le monde entier devint soudain une ressource. Ce fut le dernier émerveillement, l'assouvissement de toutes nos soifs. Tout ça se fit d'abord dans le désordre. On ne saurait dire quand la chose commença ou recommença. L'Angleterre avait pris un peu d'avance. Les anciens empires se désagrégeaient lentement. On vit toujours entre deux mondes, entre deux moments de l'histoire, entre deux courants qui s'affrontent et ne l'emportent jamais définitivement l'un sur l'autre, comme si nos forces, nos contradictions intérieures luttaient là, devant nous, pour nous offrir le spectacle sanglant de nos démêlés dérisoires. Très vite, le souci de mieux faire s'affirma. Ça valait le coup de s'entendre. On perdrait moins de temps. Or, bizarrement, ce ne furent ni les Français ni les Anglais qui organisèrent l'indispensable négociation qui devait fixer entre les conquérants un code de bonne conduite. Ce fut Bismarck, le chancelier d'un empire tout à fait débutant en la matière, sans expérience coloniale, qui convia 13 des nations les plus déterminées. Celui qui devait donner son nom à une manière d'accommoder le hareng, à un colorant aux propriétés chimiques extraordinaires et au bismarckia, qui est un bouquet de feuilles au sommet d'une tige fibreuse, autrement dit une sorte de palmier. Lui, en l'honneur de qui seront baptisés un archipel, plusieurs montagnes, une mer, et même, ne me demandez pas pourquoi, la capitale du North Dakota, triste état du Midwest des États-Unis, bled comptant à peine plus d'habitants que Bourg-en-Bresse. Celui donc, en l'honneur de qui toutes ces choses allaient prendre ou avaient déjà pris son nom, convia à Berlin la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Portugal, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Russie, la Suède et la Turquie. En plus des innombrables maladies qu'il accompagnait lui-même, tous les jours, rhumatismes, colites chroniques, brûlures d'estomac, inflammation des veines, insomnie et j'en passe, afin, au nom du Dieu Tout-Puissant, de régler, dans un esprit de bonne entente mutuelle, les conditions les plus favorables au développement du commerce et de la civilisation dans certaines régions d'Afrique, ainsi que le rappela l'acte final en date du 26e jour du mois de février 1885, signé par von Bismarck, van der Straeten, Pontos, Henry Stanford, Chaudron de Courcelles, Edward B. Mellet et 9 autres clampins qui, selon, apposèrent leur calligraphie gothique ou leurs pattes de mouche. On n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu tant d'États essayer de se mettre d'accord sur une mauvaise action. Il avait fallu bien de la puissance à l'Allemagne et bien de l'habileté à Bismarck pour faire venir tout ce beau monde et ordonner cette conférence. À coup sûr, c'était un acte politique d'envergure. Le samedi 15 novembre 1884, on se retrouva. On se retrouva, et c'est en 1869 que ce palais de Radzwil avait été acheté par le royaume de Prusse à l'initiative de Bismarck. C'est que la Wilhelmplatz, où se trouve le palais, était bien agréable, bordée d'arbres, telle que l'avait redessiné le bon Schinkel, avec son jardin au centre, coupé par deux chemins formant un grand X, la croix de l'homme moderne. Schinkel est un architecte imbécile qui a dessiné tout un tas de machins et notamment un projet pour les Grecs. Mais Dieu merci, les Grecs n'ont pas suivi Schinkel et son projet de restructuration de l'acropole en palais royal, double hérésie. Et à part les pillages que lui ont fait subir les musées de Londres et de Berlin, la ruine est restée ce qu'elle était. En 1884, donc, le palais Radziwill vient tout juste d'être rénové. La conférence de Berlin sera sa crémaillère. Le palais est un vaste ensemble rococo, style fleuri et ludique, où la décoration enveloppe la vie comme si la coquille ou la peau était l'expression de l'âme elle-même. Tout y est raffiné, fantaisiste, et c'est entre les anges joufflus et les courbes du chêl, dans cette superficialité étouffante, paludéenne, dans ce déchaînement de frivolité, parmi une prolifération de stucs, de lianes de plâtre, de flammes de verre, au milieu de cette prospérité monstrueusement légère, de cette inexpression foisonnante, de ce désir inouï de ne rien dire, mais de ruminer, de racasser, de remuer sa paille dans son verre, avec toute cette sexualité qui s'ignore et s'expose ingénument, vase chinois, mandarine, fouillis de branches et de griffes, ronde de satyre, espièglerie hideuse de petits monstres, c'est là qu'on va se pencher sérieusement sur le destin du monde et chuchoter d'énormes calculs. C'est que la décoration joue son rôle dans l'histoire, et pas un petit rôle de rien du tout. Un rôle insidieux, fantastique, de sphinx. Est-ce que ce n'est pas au miroir et aux tables qu'on pose les plus brûlantes questions ? On couche son oreille contre les coquillages. Enfant, on s'imagine vivre dans une petite grotte. Le rococo est en somme l'addition effarante de tous nos rêves, miroitement ininterrompus, où du même coup la vie s'efface et se pétrifie. Mais de tout ça, aujourd'hui, des lustres, des vases, des fresques peintes par X, il ne reste rien. La légèreté a été pulvérisée par les bombes. Ce joli petit palais a été occupé par Hitler dès 1933. Et sous la grande salle de réception, il a fait creuser un grand trou pour installer son Vorbunker, puis un peu plus loin et plus bas, le Führerbunker. Car d'année en année, il semble qu'il faille s'enterrer plus profond, comme ces morts qui, dit-on, se creusent chaque jour une nouvelle tombe plus loin, avant d'être aspirés tout au fond par la lave. Et c'est dans ce trou, à plus de 8 mètres sous les pelouses du jardin de la chancellerie, qu'on transportera les plus beaux tableaux, les plus beaux meubles de vieux palais. Ce fut le dernier repère des monstres. Et pas des petits monstres de plâtre, non, des vrais de vrais, les pires de tous. C'est là que Goebbels empoisonna sa nichée. C'est là que les grands diables ont gobé leur petite capsule de cyanure, fuyant l'apocalypse avant le jugement. On n'a peut-être jamais tant bombardé un endroit que celui-là. Les quelques centaines de mètres carrés au sol du vieux palais ont été chacun pilonnés par des tonnes de mortiers, jusqu'à ce que les bunkers cèdent, jusqu'à ce que les mètres cubes de béton crèvent et ne laissent que d'énormes ossements de dinosaures. Thank you. évitait de se montrer trop prolixe. Même ce vieux salonnard de machin truc chose, si bavard quand il est ivre, se cantonne à des lieux communs sur la place Wilhelm, sur les actualités du temps, sur les faits divers. Mais c'est surtout le nez qui, chez eux, est remarquable. Bien sûr, leurs oreilles, toutes brillantes, sont quelque chose. Leur front hardi, leurs regards soutenus font honneur au pays qu'ils représentent. Pourtant, l'essentiel de leur allure tient à la façon dont leur épine dorsale se prolonge et s'achève par le nez. Étrange anatomie! Toute la lumière du monde, c'est-à-dire celle des 115 bougies du salon, brille à la surface d'un millimètre de cartilage. Et voici Alphonse Chaudron de Courcelles, un des nez les plus splendides du monde. L'homme marche à pas très lents, enveloppé de je ne sais quelle pensée profonde. Mais en réalité, si on se penche sur son crâne et qu'on y fait un petit trou de chignol, on aperçoit sa cervelle toute blanche et dedans, on parvient, jetant un coup d'œil, à dénicher un linéament de sa pensée. Et l'on devine soudain qu'il est en train de songer, tout simplement, à l'entretien de son parc. Il se demande si les jardiniers ne négligent pas un peu de tailler les massifs, les petites pyramides de buis autour de la rotonde. Mais on ne sait pas s'il pense au parc du château d'Athis ou à celui d'Avoucourt, qui n'est pas mal non plus. Plutôt maison de notable que château, avec tout de même, en plus du bâtiment principal, parc nymphé, bassin et théâtre. Ça ne peut pourtant pas être celui d'Avoucourt, impossible. Il ne l'achètera que beaucoup plus tard, je crois. À moins que ce ne soit son fils. Peu importe, il pense à l'une de ses propriétés, à un joli jardin, à une pelouse mal tondue, à un parterre de fleurs. Car on est grand homme de cette façon-là, un peu châtelain, un peu poète ou jardinier. Un peu homme d'affaires, président du conseil d'administration de telle ou telle compagnie, prince de la chaussure, négus du charbon, énorme grenouille. C'est donc sûrement au parc du château d'Athis que Chaudron de Courcelles pense, entraînant ses savates dans le grand salon du palais Radziwill. Il rêve à ces merveilleux jardins suspendus au-dessus de la Seine. Et Chaudron, quel drôle de nom tout de même. On dit que les Chaudrons sont en général grandets et maigres, que leur démarche est nerveuse, précipitée, que leurs pommettes sont rieuses, leurs yeux profonds, qu'ils semblent sans cesse avoir quelqu'un à leur trousse. On dit que les Chaudrons sont à l'aise dans tous les métiers de salive, bavassier, vente à la criée, porte à porte, enseignement, politique. Le choix est vaste. Les Chaudrons détestent la routine et le travail contraint. Ils ont horreur de la monotonie des tâches ménagères. Il est exact que Chaudron de Courcelles n'était pas très assidu au ménage, ce qui tend à prouver le bien fondé des remarques qui précèdent. Les Chaudrons, précise encore le docteur dans sa voyance de l'amour, sont assez femelles, sensibles à la flatterie comme aux critiques. Plus ils ont de soucis, plus ils dépensent. Qu'est-ce que c'est que ce machisme, monsieur Éric Vuillard? On vous aime, d'accord, mais faudrait pas exagérer. Et tout cela vient d'un Chaudron fait en 1867 baron de Courcelles, de Port-Courcelles sur la Seine, à Vigneux. Mais je me trompe peut-être, et ça m'est égal. Tout ce que je crois savoir, c'est qu'avant un certain Jules, ou Jules Louis, mais c'est peut-être un autre, on ne trouve plus vraiment la trace des Chaudrons. Ils rentrent dans le lot indiscernable des petites volontés. Ils se font minuscules, anonymes. Bien sûr, les chaudrons de Courcelles d'aujourd'hui s'indigneront et protesteront qu'ils ne sont pas de ces chaudrons-là, de ces petits chaudrons de rien du tout, qu'ils viennent d'un autre chaudron, qu'on le trouve quelque part dans les métamorphoses d'Ovide, quittant l'Apulie en compagnie de Vénulus. Mais nous, on s'en fiche pas mal de l'Apulie et de Vénulus. Quand les chaudrons de Courcelles nous abandonnent dans les petits chaudrons, nous abandonnent donc les petits chaudrons, ceux de l'Annuaire, ceux d'Aubervilliers et de Brignoles, ceux qui travaillent comme cadres catégorie D de je ne sais quelle administration de province, les chaudrons du Trimard, ceux qui traînent en tôle dans les asiles pour vieux, les dingos aussi, tout cela, nous les préférons à n'importe lequel de ces grands chaudrons de l'histoire, car ce sont ces chaudrons-là qui ont ressemelé nos chaussures pendant que nous les leur servions à boire, et ce sont eux encore qui faisaient nos lits pendant que nous rincions le mufle de leurs vaches. Nous sommes de la même espèce, eux et nous, et nous préférons n'importe lequel de ces premiers chaudrons à tous les héros de l'histoire de France. Pourtant, il faut bien avouer que le grand chaudron, Alphonse Chaudron de Courcelles, était tout sauf antipathique. Ce sont Ferry et Gambetta, le commis voyageur, celui qui fit le tour de France sur des tréteaux pour convaincre le peuple des bienfaits de la démocratie, l'homme au ballon dirigeable, le Phileas Fogg de la République. Ce sont eux qui avaient mandaté Chaudron à Berlin, car Chaudron était habile, oui, et sûrement un peu mieux que ça. Il était tout entier diplomate, comme certaines bêtes furent diplodocus ou diplocoque. Il avait le don de sourire et de penser en même temps, et derrière ses grosses moustaches aimables, il y avait des fils qui reliaient chacune de ses fossettes aux dendrites de ses neurones. Il savait bavarder, aimanter l'attention, donner une impression favorable, inspirer confiance. Sa condescendance pouvait passer pour une forme de sagesse. Ses airs patelins faisaient pardonner ses absences. À ses côtés, on se remémorait la grande maison basse qui sentait le bois, les bonnets d'ardoise, l'alouette qui chante. On n'est cependant pas forcé d'y croire. Le premier à parler, après la présentation du chancelier Bismarck, ce fut l'Anglais, Sir Edward Mallett. Il évoqua le bien-être des indigènes, vanta le libre-échange, mais parla de le contrôler, puis déclara d'un même élan l'Angleterre favorable à la liberté du commerce dans le bassin du Congo. On s'y attendait. C'est que, là-bas, au Congo, l'Angleterre n'a rien, pas un pet de terre. Il lui serait donc avantageux de pouvoir y commencer librement. De pouvoir y commercer librement. On est rarement protectionniste chez les autres. Mais la liberté du commerce a une histoire. Les physiocrates, ces premiers